Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique ? Qui ?
Vous le savez bien. Qui sont ces gens ?
Qui ?
Qui ?
Qui ? Qui ?
J'ai bien envie de savoir également.
Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
S'il n'y a pas assez d'eux, il faut nous dire de quoi il y a trop.
Qui ?
Bah c'est la communauté que vous connaissez bien.
C'est vous ! Je vous demande de vous arrêter.
Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça ?
C'est parti mon kiki.
Chers auditeurs, bonjour. C'est parti mon kiki pour la 19e édition. Paul Verbeek à l'antenne de RFM pour une émission consacrée à Michel Onfray et à ses sorties spectaculaires en faveur de l'État d'Israël et de la politique sioniste. Pour commenter ses propos, on a le plaisir ce soir de recevoir Alain Soral. Bonsoir.
Bonjour à tous.
Félix Nisch.
Salut.
Youssef Indy.
Bonsoir à tous.
Et enfin, Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous.
Ce que je vous propose pour démarrer, c'est peut-être, Xavier, de commencer par une introduction sur le personnage Michel Onfray, un petit peu pour savoir d'où il parle, avant d'entamer l'archéologie, le commentaire de ses propos.
Alors ça, c'est une très vaste question qui fait écho à une conversation que j'avais avec un militaire plutôt de droite, catholique, honnête, récemment, qui me disait « Mais j'écoutais Onfray l'autre jour sur BFM, qu'est-ce qu'il est bien ce mec ?» Et là, je me disais « Putain, là, c'est quand même, on peut vraiment vendre de la merde comme du caviar, faire passer des vessies pour des lanternes. C'est vraiment incroyable, parce que c'est vrai que le type qui écoute BFM le matin, et pour une fois, c'est Onfray, il se dit « Tiens, j'entends plutôt moins de conneries que d'habitude. » Mais il n'y a pas de mémoire. Et en fait, Onfray est quand même un personnage intéressant. C'est ce qu'a fait les documents, on appelle les grands dossiers. Donc, personnalité à laquelle on a consacré une grosse biographie parue sur deux numéros, qui sont les numéros 403 et 404 de Faits et Documents que vous pouvez retrouver sur faitsetdocuments.com. Donc je vais essayer de la faire court. Michel Onfray, c'est une personnalité intéressante, pas pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il fait, enfin pas pour son œuvre. C'est-à-dire que par exemple, on va écouter Emmanuel Todd, on va écouter Patrick Buisson, il y a des personnages qu'on peut suivre comme ça. Lui, il est intéressant et il faut le suivre en pointillé parce que c'est ce que j'appelle un intervenant du débat public girouette. C'est-à-dire que faut le suivre parce qu'il indique le sens du vent. En ça, il est assez comparable avec, dans un autre registre, mais il est très comparable à Franz-Olivier Gisbert, avec qui il s'entend très bien. Il s'entend vraiment bien avec Gisbert, et vraiment, ils ont en commun, il faut les suivre pour savoir où va le sens du vent, quoi. C'est des intellectuels girouettes. Alors, d'abord, il a un moteur, Michel Onfray, pour essayer de comprendre ce qui le meut, c'est un énorme besoin de revanche sociale, parce que c'est vrai que c'est un fils d'ouvrier. Ses parents sont employés dans une fabrique de camembert dans l'Orne. Le père ouvrier, mère, femme de ménage, ils n'ont pas assez d'argent et ils le placent dans un orphelinat catholique faute de moyens. C'est quelqu'un qui a une relation très bizarre aux femmes, puisqu'il a longtemps eu la même compagne, est décédé en 2013 et qu'il a accompagné dans un processus d'euthanasie, ce qui a fait qu'ensuite il a été récupéré par les loges sur l'agenda bioéthique, tout en vivant avec son assistante, donc dans une relation de bigamie, quoi, pour ainsi dire, avec qui il a fini par se marier en 2019, alors qu'il avait juré, et il s'était juré de ne jamais se marier et de ne jamais avoir d'enfant. Alors très jeune, il s'engage dans ce qu'on appelle la gauche libertaire anarchiste. Alors il y a toujours une dualité chez Onfray. Par exemple, il va se dire épicurien hédoniste et en même temps c'est quelqu'un qui boit pas et qui fume pas parce qu'il a effectivement une santé fragile. Donc là, il est libertaire anarchiste et son mentor, c'est un philosophe on ne peut plus académique qui s'appelle Lucien Gerfagnon, qui est aussi le mentor de Raphaël Enthoven, qui est un philosophe très académique, un peu abscon et filandreux. Et c'est surtout l'assistant de Vladimir Jankélévitch, le penseur de l'imprescriptible. C'est quand même ça, la porte d'entrée. Et
Une question, Xavier. Est-ce qu'on a des noms d'organisations qu'il aurait fréquentées à l'époque où il était libertaire, anarchiste, enfin dans sa prime jeunesse, disons ?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pris succinctement des notes, vous retrouvez tout ça dans le feuillet document, mais c'est la mouvance libertaire anarchiste. Donc en fait, il va écrire un livre qui va être repéré sur les habitudes alimentaires des philosophes, etc. Donc à ce moment-là, il est repéré, son manuscrit est repéré chez Grasset par Jean-Paul Enthoven, donc Enthoven père, qui s'occupe des éditions Grasset avec Bernard-Henri Lévy pour aller très vite. Et à ce moment-là, ils lui font un vrai contrat. C'est-à-dire qu'en fait, Enthoven père et Bernard-Henri Lévy vont miser sur Onfray. C'est-à-dire qu'il est mensualisé, il signe pour 5 livres, donc en fait il est prof de philo en lycée. Bon, il n'est pas normalien et il n'est pas agrégé, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce genre d'attaque. Mais en plus, il est mensualisé, donc chez Grasset, il a signé pour 5 livres. Et en fait, l'idée qu'ont Enthoven et BHL, c'est d'en faire... Parce que Enthoven et BHL, passer le périphérique, c'est invendable, quoi. Donc en fait, il devient une sorte de franchise de BHL en région. Voilà, c'est le BHL du terroir, mais c'est vendu, c'est un produit marketing. Je veux dire, c'est vraiment un produit marketing, Enthoven père BHL, et c'est pensé comme ça. Hein, donc il participe même au lancement de la règle du jeu. On retrouve des interviews en 2000 où il parle de Grasset comme de sa famille. Hein. Son truc à l'époque, c'est sa grande idée, c'est « il faut parachever mes 68 ». Hein. Et son fait d'armes en tant qu'enseignant, c'est d'avoir appelé les élèves à se masturber dans la cour de son lycée. Donc en 2002, il appelle à voter Besancenot. Il est très anti-Le Pen. Il compare le 21 avril 2002 à l'affaire Dreyfus. Donc c'est à cette époque qu'il quitte l'enseignement pour créer ce qui va s'appeler, ce qui va être sa grande réussite et qui va faire son prestige, qui est l'Université Populaire de Caen. L'Université Populaire de Caen, donc là on reste effectivement avec un enracinement en région, mais encore une fois il va bénéficier du réseau Grasset, donc on va voir par exemple venir à l'Université Populaire de Caen Raphaël Enthoven qui n'est pas encore brouillé avec son père à l'époque, on va avoir le réseau France Culture avec Antoine Spire, et au niveau local il est appuyé par un type assez intéressant qui a été ministre de Rocard, maire d'Argentan, qui est un ratsoc membre du Grand Orient, qui s'appelle François Doubin, son vrai nom c'est Doubinski, et qui lui était membre du siècle. Donc en fait, il a quand même ses appuis à Paris, hein, donc Grasset, BHL Enthoven, France Culture, et au niveau local, il est appuyé par la maçonnerie, Grand Orient, ratsoc, avec les subventions, puisqu'effectivement c'est populaire, mais bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye, quoi. Donc là, il va publier ce qui va être son best-seller, qui est le traité d'athéologie. Donc là, on est, il me semble, en 2005. Et la grande idée du traité d'athéologie, c'est que le catholicisme mène au nazisme, que les feux de Saint-Jean mènent à la chambre à gaz. Donc c'est le concept d'Onfray, et c'est son best-seller. À cette époque-là, il est gauche, Charlie Hebdo. 2007, il appelle à voter Besancenot. 2008, il soutient le lancement du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, avant que ne survienne une rupture en 2010. Ça, c'est vraiment la rupture dans son parcours, qui est la sortie d'un livre qui s'appelle « Crépuscule d'une idole ». Donc, on sent l'influence de Nietzsche, en tout cas, il s'en réclame, et qui est une charge contre Sigmund Freud, où d'ailleurs, il recycle tout l'anti-freudisme qui vient de ce qu'on appelle l'extrême droite, quoi. Et donc là, il se prend une campagne médiatique dans la gueule, quoi, pour ainsi dire. Il se fait traiter d'antisémite et il se prend Bernard-Henri Lévy qui se retourne contre lui et surtout la papesse de la psychanalyse en France qui s'appelle Elisabeth Roudinesco et s'ensuit une campagne de presse sur le thème de l'antisémitisme. C'est-à-dire Onfray antisémite avec évidemment l'édito de Geoffrin qui va bien, Michel Onfray file un mauvais coton. Et là, il commence à se présenter comme un goy du terroir, etc. Enfin, vraiment, il est en situation de se rebeller et donc il aggrave son cas en faisant une tribune dans Le Point qui est une recension d'un livre de Jean Solaire qui s'appelle « Qui est Dieu ?». Donc en fait, si on veut donner une cohérence idéologique, il est dans une critique du monothéisme et il va aller au bout de sa critique du monothéisme en allant sur le terrain du judaïsme et à ce moment-là, il va être accusé de se rapprocher de l'extrême droite païenne, c'est-à-dire des idées du Grèce, ce qui est vrai au niveau du réseau, ce qui est vrai en partie, même si il a jamais franchi le pas publiquement, puisque parallèlement, il va se mettre à multiplier les voyages en Israël. C'est-à-dire que jusque-là, il était très enraciné dans l'Orne, etc. Et puis là, à partir de 2013, donc c'est-à-dire parallèlement à l'accusation d'antisémitisme, il va se mettre à multiplier les voyages en Israël et à expliquer que Tel Aviv est la nouvelle Athènes, etc., etc. Mais il est quand même en situation de rébellion contre la gauche. Alors là, on est en 2015, je vais lire deux phrases, deux citations dans Le Point du 12 mars 2015. « En plus d'un quart de siècle, nous avons constaté que rien d'autre ne nous réunit. » Donc là, il parle de Jean-Paul Enthoven. Donc c'est sa rupture avec Jean-Paul Enthoven. « En plus d'un quart de siècle, nous avons constaté que rien d'autre ne nous réunit que ce qui nous sépare. Il est urbain et parisien. Je suis campagnard et provincial. Il est à l'aise dans le monde des gens de lettres. Je suis un sanglier. » Il est juif, libéral, cosmopolite. Je suis un descendant de viking enraciné. Il est le contraire de ce que je suis. Voilà pourquoi notre association ressemble à une figure taoïste. Voilà, et puis ensuite, il multipliera des déclarations contre l'intelligentsia de gauche, je ne me sens pas proche de Bernard-Henri Lévy ou d'Alain Minc ni de Jacques Attali, qui, me dit-on, sont de gauche. Faudrait-il que je me sente proche pour cela d'intellectuels de droite? Qui sont-ils d'ailleurs? Concluez, si vous voulez, que je préfère une analyse juste d'Alain de Benoît à une analyse injuste de Minc, Attali ou BHL, et que je préférerais une analyse qui me paraisse juste de BHL à une analyse que je trouverais injuste d'Alain de Benoît. Bon, bref. Donc là, c'est des citations qui rappellent Jean-Marie Le Pen, hein, qui n'a rien contre les juifs, mais qui ne valide pas la loi Veil, la peinture de Chagall et la politique de Mendès-France. C'est-à-dire qu'on est vraiment Satangue. Et donc, pour conclure sur son actualité, ensuite, il va naviguer en étant dans le giron et en flirtant toujours dans le giron de ce qui va accompagner la montée en puissance d'Éric Zemmour. Pendant le Covid, qui est un vrai marqueur quand même, il va être pro-Raoult au début. Il va être un vrai soutien de Raoult en lançant d'ailleurs sa revue souverainiste Front Populaire en s'appuyant sur Raoult. Et puis ensuite, il devient un soutien fanatique de la politique sanitaire, c'est-à-dire du pass vaccinal et de la vaccination. Ça, c'est un vrai marqueur. Et alors, aux dernières nouvelles, alors je viens de lire une citation dans laquelle il était viking. Alors, aux dernières nouvelles, il a déclaré sur Actualité juive qu'il avait fait des recherches, puisque sa mère était de l'assistante publique, venait de la DAS, et qu'ils avaient découvert que sa grand-mère s'appelait Weizmann, et que du coup, il avait fait faire des tests ADN, et que maintenant, il était juif. Alors, en fait, bon, donc maintenant, il est juif, et il communique beaucoup auprès des milieux catholiques sur ses retraites spirituelles dans des abbayes, et en multipliant effectivement les déclarations de soutien à Israël. Donc tout ça a fait logiquement qu'il vient d'être recruté par CNews. Donc le parcours de Michel Onfray, on pourrait résumer, de Bernard-Henri Lévy à CNews, en passant par Charlie Hebdo, en ayant été tenté à un moment donné effectivement par Le Graisse. Mais encore une fois, c'est un intellectuel qui est intéressant dans ce sens vraiment. Parce qu'il a tout été, hein. Avant, il était freudo-marxiste, il a été donc le penseur de l'athéisme, donc maintenant il fait des retraites spirituelles dans les abbayes. Je vous dis, hédoniste libertaire, il boit pas une goutte d'alcool, il fume pas, épicurien, enfin, il a tout été, je vous dis, il est symptomatique de quelque chose, donc ça vaut le coup. Les livres, bon, c'est inutile, je pense, de les lire, les interviews, c'est trop long à écouter, mais il faut toujours regarder la phrase d'accroche, le titre, voir où en est Onfray, pour voir un peu où ça bouge sur le terrain des idées, qu'est-ce qui est dans le sens du vent, puisqu'effectivement, c'est une girouette intellectuelle.
Merci Xavier. Donc on s'est farci, on s'est fadé la totalité de cet entretien qu'il a donné à la radio Mosaïque, interviewé par un certain Antoine Mercier. On ne commentera pas davantage son amphitryon, là, ce personnage qui lui tend le micro.
Qui est aussi sur France Culture.
Voilà.
C'est toujours puis, les doubles médias, comme Frédéric
voilà,
Aziza.
Voilà, c'est ça, et qui est un parangon du judéo-christianisme, hein, on ne va pas le dire autrement. Cet entretien, c'est un festival. Donc on a tout écouté, on a sélectionné 6 extraits. C'est assez fouillis, c'est assez caractéristique de la méthode Onfray, c'est-à-dire on accable d'arguments, de faux arguments, d'exemples, des coqs à l'âne. Donc on va voir, c'est livré comme ça, puis eh bien, vous pourrez commenter chaque extrait. On attaque avec un premier extrait, un audio de Michel Onfray.
Je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre a généré en France une espèce de déchirure d'un voile qui fait qu'on découvre maintenant comment fonctionne l'antisémitisme français. On voit où il est et on voit qu'aujourd'hui, la France insoumise, pour la désigner clairement, nous dit très précisément qu'il y en a marre quoi, des juifs. Ça commence à suffire, ça commence à bien faire. Israël, l'antité sioniste, etc. Et on retrouve, comme si de rien n'avait été de l'histoire du peuple juif au XXe siècle, on retrouve le vieil antisémitisme, ça continue, c'est-à-dire l'antisémitisme de gauche qui passe aujourd'hui par l'islamo-gauchisme et qui suppose que bon, on commence à en avoir assez de cet État qui est en trop et dont il faudrait se débarrasser. Et ben voilà, maintenant il y a une espèce de lisibilité et il faut composer avec 25%, je dirais, de la population française qui pense comme ça. Les gens qui sont derrière Mélenchon, une grande partie de la communauté musulmane.
Alors, que lire de cette analyse politique à la truelle, Alain ?
Juste une petite remarque. Onfray s'est très souvent réclamé depuis longtemps de Proudhon. Il se présente comme un proudhonien. Or, on sait que les deux mamelles du proudhonisme, on va dire critiquables selon l'idéologie dominante, c'est la misogynie, l'antiféminisme et l'antisémitisme. Donc, ce qui est marrant chez Onfray, c'est que on sent qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas de culture, parce que sinon on pourrait lui répondre, lui rétorquer très vite les contradictions dans lesquelles il s'enferme. Et là, il y a une espèce de passage en force qui n'est possible que parce qu'il est avec des interlocuteurs complices. Moi, je m'arrêterai à ça. Rappelez-vous, Proudhonien, on ferait très très souvent rappeler. Hein, et là, il y a une contradiction très forte parce que Proudhon se retrouve beaucoup plus proche aujourd'hui du Mélenchon actuel que de notre camarade Onfray, là, qui se trouve très proche de Golnadel hein, dans la déclaration.
Félix ?
Oui, Proudhonien, et aussi il se dit Nietzschéen. Or, Nietzsche a écrit dans Ecce Homo, toute trace de féminisme, en français dans le texte, hein, par Nietzsche, interdit que l'on puisse jamais pénétrer dans les arcanes compliquées de mon œuvre. Il a aussi écrit dans Par-delà le bien et le mal, se tromper au sujet de l'homme et de la femme, etc., etc., rêver de droits égaux, révèle un penseur superficiel qui sera dans tous les autres domaines. Donc la misogynie de Nietzsche, que Onfray a décrié d'ailleurs en disant que s'il avait baisé un peu plus, ou tout court, Lou Andrea Salomé, il n'aurait pas été misogyne. Vous voyez le niveau d'Onfray. En réalité, la misogynie de Nietzsche est très profonde. Elle est consubstantielle à son œuvre, elle est métaphysique. Vous avez donc un type qui se réclame de penseurs avec qui il n'a strictement rien à voir. Et pour dire un tout petit mot, bref, sur l'ineptie de confondre l'antisionisme et l'antisémitisme dit de gauche, c'est quand même un peu fort d'entendre un individu renchérir sur le désir de répression, de critique de l'État d'Israël, alors qu'on peut dire, si on a un peu l'intelligence de comprendre, mais lui, il n'en a pas d'intelligence, de comprendre qu'il y a l'Israël géographique, topographique, qui est en train actuellement sous nos yeux de commettre un véritable massacre, fin d'ignorer et de voir. Et lui, il confond la critique humaine de ça avec l'antisémitisme. Or, l'antisémitisme, ça serait au contraire de critiquer tout ce que la NUPES propose, c'est-à-dire le woke, la préférence immigrée, qui sont la véritable idéologie d'un Israël qu'on qualifiera de céleste ou de global. Et évidemment, M. Onfray n'est pas capable d'atteindre ses hauteurs. La chose qu'on peut dire là, c'est que c'est minable.
Youssef, il a cité en guest star la communauté musulmane, Onfray.
Oui, alors plus loin, je crois, dans l'entretien, il parle de l'influence des musulmans en France qui parviendraient par leur toute puissance à tordre la ligne politique de l'État français, en particulier de la Macronie. J'ai trouvé ça pas mal. Pour revenir à cette déclaration sur Israël qui est honni parce qu'il se défend, je rappelle juste, là, comme l'a dit Xavier, qu'en fait, Michel Onfray est passé d'une analyse disant, comme l'a dit Xavier, que le catholicisme menait au nazisme, à l'analyse de Jean Soler qui disait que le judaïsme menait au nazisme. Et que par conséquent, on pourrait parler, comme l'a dit le philosophe israélien Yeshayahu Leibovitz, de judéo-nazisme. Or, donc, s'il était cohérent et s'il était égalitariste ou universaliste, bah, il combattrait en réalité la politique d'apartheid et d'épuration ethnique pratiquée par les Israéliens. Or, dans son discours, il n'est question que du Hamas assimilé au nazisme, et pas à un seul moment, il n'a parlé des civils massacrés par milliers, par dizaines de milliers par des Israéliens.
Et les enfants.
Oui, les enfants.
La plupart sont des enfants. La disproportion, c'était quand même une notion un tout petit peu réelle, non ? La disproportion, ça serait tellement disproportionné, tellement énorme, que... Je ne sais pas, se prétendre philosophe et pas voir ça, mettre les opinions devant la réalité et criminaliser une réaction purement humaine. Parce que je le répète, la NUPES et les autres, ils ne sont pas avec nous. Hein. Et si demain, par malchance, des types comme Mélenchon arrivent aux manettes, comme l'a dit, je ne sais plus qui, là, un type à qui on avait demandé son avis sur Soral, il a dit « oui, mais moi, je suis pour la peine de mort sur l'antisémitisme », alors que c'est un type qui passe pour un antisioniste. Donc ça ne serait pas de la rigolade en plus, hein. Ça serait pire. Hein. Je note aussi que tout le monde s'envoie nazi à travers la figure. Hein. Mélenchon et ses sorcières appellent ce que fait Israël du nazisme. Netanyahou, s'il n'était pas d'extrême droite, oh là là, ils ont du bol, il est d'extrême droite. Donc c'est un nazi. Et quant aux juifs, ils appellent le Hamas des nazis. Donc il y a quand même quelque chose qu'on pourrait peut-être hein, comprendre derrière.
Mais il faut rappeler ce qu'a dit Xavier, c'est qu'en fait, Onfray, il faut... écouter ce qu'il dit comme un positionnement de tendance. Ça veut dire qu'il sait qu'en ce moment, c'est gagnant et c'est ce qui va apporter le maximum de soutien et de lisibilité dans le monde, on va dire, des médias. Donc, ça rejoint cet appétit énorme parce que c'est un gros bosseur. Hein. Il ne fait pas dans la qualité, mais il fait dans la quantité, qui est cette idée de revanche sociale et aussi d'une espèce de conte qui règle la distance, comme une compétition avec Bernard-Henri Lévy, à qui il ressemblait beaucoup jeune. Hein. C'est-à-dire, il essaye de prendre la pole position et d'occuper le maximum de terrain. Et en fait, c'est pour ça que la cohérence n'est pas du tout son truc, en fait. Comme ils le disent, c'est un sanglier, hein. Il travaille en force.
Oui, c'est ça. Il est passé de l'idéologie française au nouveau bréviaire de la haine, en faisant une petite crise existentielle, antisémite, d'ailleurs, qui avait très bien repéré Elisabeth Roudinesco.
Et si voilà. On veut le commenter en philosophe, on dit simplement qu'il est passé de Nietzschéen de gauche à Nietzschéen de droite. Comme ça, ça ne dit pas grand-chose, mais il peut s'en sortir comme ça. C'est-à-dire qu'il est resté Nietzschéen, mais il est passé de l'aile gauche à l'aile droite. Eh bien, à l'aile gauche, c'était le côté, on va dire, la dimension anti-système, anarchiste, ironique, qui reliait à un certain libertarisme. Et puis de l'autre côté, ben, il se retrouve avec Zemmour et Golnadel, qui me disaient à l'époque, nous, sionistes, sommes la nouvelle Sparte. Voilà, il est avec les Spartiates maintenant.
Il est quand même aussi avec Macron et le pouvoir d'État, parce qu'il surfe sur le pays illégal. Il estime que la pourriture qui nous dirige est le camp des États-Unis, à la force avec elle. Parce que c'est un homme, c'est un petit bonhomme, hein, c'est pas un philosophe, c'est pas un penseur du tout. Il pense que ce camp va triompher, alors que d'autres...
Même pas qu'il va triompher, il voit que ce camp est au pouvoir. Parce que triompher, ça voudrait dire qu'il joue une carte d'avenir, alors que là, en fait, il joue toujours le présent.
Youssef ?
Il dit autre chose dans l'entretien. Alors, il dit que la démocratie est en danger, notamment à cause de l'islam conquérant en France. Mais en même temps, il dit qu'il est contre les discours de l'UPR, par exemple, qui critiquent le covidisme, c'est-à-dire la politique vaccinale, tout en étant, lui, on ferait, contre l'Union européenne. Donc, il dit qu'il est contre l'Europe de Maastricht, mais en même temps, il est pour le covidisme qui a été notamment imposé par la Commission européenne, par von der Leyen. Donc, en fait, il est dans la contradiction permanente. Et en géopolitique, là, encore une contradiction, il dit qu'il est contre la marche à la guerre, mais en même temps, il dit qu'il est contre la Russie et pour l'Ukraine, en fait. Je veux dire, on ne peut pas être les deux en même temps. Donc, il est pour l'Union européenne, enfin, il est contre l'Union européenne, mais il est pour la politique de l'Union européenne. Il est contre la guerre, mais en fait, il est contre la Russie et pour l'Ukraine. Donc, en fait, il est parfaitement dans l'axe OTAN-Union européenne, Washington.
Ah oui, oui, là, il n'y a pas de problème, il est... C'était une phrase de chevènement, tu sais, il retourne sa veste, c'est doublé à l'intérieur, là. C'est vraiment ça. Et sur Poutine, il est anti-Poutine. Alors, il est souverainiste anti-UE. C'est pas un intellectuel, c'est une forme de prostitution intellectuelle, quoi. C'est-à-dire qu'il va sur les plateaux vendre un discours qui est dominant dans certains réseaux de pouvoir et il va au plus offrant. Là, je te dis, il vient d'être embauché pour une émission à CNews. Et alors lui qui t'expliquait que le catholicisme, que Paris vaut bien une messe, donc lui il expliquait que le catholicisme menait au nazisme, maintenant il communique sur le fait qu'il fait des retraites dans des abbayes. Ben ouais, c'est...
Tout en te disant que Jésus-Christ n'a pas existé, alors que dans la religion de l'incarnation, c'est-à-dire que si t'enlèves l'existence de Jésus, comme c'est pas une religion du livre, pour ceux qui confondraient, il reste pas grand-chose. Hein.
Mais c'est une fausse valeur, quoi. Pour parler comme un antiquaire, c'est de la drouille.
C'est de la drouille. En fait, il est tout à fait à sa place avec CNews. Un ami me disait, mais finalement, comment tu résumerais Onfray ? Il me répondait, mais c'est un fournisseur de prêt à répondre en dîner réac, mais pas trop en ville. Et donc CNews, c'est parfait pour lui. On est bien. Extrait suivant, donc victimisation, instrumentalisation de la Shoah, registre judiciaire.
Je ne sache pas que M. Mélenchon ou deux ou trois de ses comparses aient eu une plainte contre lui pour tout ce qu'il a dit concernant le 7 octobre. Il y a matière. Il y a quand même grandement matière à une plainte. Moi, je me suis retrouvé avec des plaintes simplement parce que j'avais, dans Front Populaire, fait un entretien avec Michel Houellebecq et que Michel Houellebecq était en train de tenir des propos sur l'islam en disant quelques sottises dont il est assez coutumier. Mais je veux dire, là, il n'y a pas de problème. On peut porter plainte. On porte plainte contre des écrivains qui s'en viennent dire qu'il y a un danger avec l'islam. Mais pour des gens qui nous disent que finalement, il faudrait supprimer l'État d'Israël et le donner aux Palestiniens parce que ce serait leur terre et faire savoir que ça commence à bien faire les Juifs avec leur guerre, ceux-là n'ont pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a aucun problème. Manuel Bompard, pas de plainte. Hercy Lassoudé, pas de plainte. Mélenchon, pas de plainte. Moi, j'aurais été juif, j'aurais fait savoir nationalement à chaque fois qu'il y a eu un usage de la Shoah, un usage électoral, comme il y a eu plusieurs fois avec Macron, qu'il fallait respecter les morts, qu'on ne peut pas se servir d'Oradour sur Glane comme d'une espèce d'argument électoral, d'argument de campagne, qu'on ne peut pas se servir de la Shoah comme d'un argument de campagne. Cette façon de banaliser l'antisémitisme, ou de faire de telle sorte qu'on traitait d'antisémite quiconque ne l'était pas. Moi, j'ai eu droit à des campagnes contre moi parce que j'avais fait un livre sur Freud et on avait estimé que j'avais parlé du rapport que Freud avait avec l'argent. Mais il y a des textes de Freud sur l'argent. Pourquoi est-ce que, par exemple, la thérapie suppose qu'on soit payé en liquide ? Il y a des textes sur la théorie de la psychanalyse chez Freud qui disent ce genre de choses.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce fatras? Comment est-ce qu'on décompose?
Il y a tout, hein, il y a tout. Et quand tu dis que les procès sont d'un côté et pas de l'autre, je peux témoigner que c'est absolument faux, hein, bien évidemment. Ils sont en train de voter en ce moment même au Parlement une loi anti-sorale qui est exactement le contraire de ce qu'il prétend. Mais ça lui permet en plus de dire qu'il est un courageux qui prend les coups. Il y a vraiment un... Je veux dire, une perversité dans son discours et son positionnement, c'est de se faire passer pour un mec qui va au combat là où c'est dangereux, alors qu'il rallie le consensus dominant du moment, qui en plus se déplace assez vite en ce moment, compte tenu de l'aggravation de la crise. Et normalement, tu laisses passer un peu de temps. Tu sais, les types qui étaient très libertaires dans les années 80 sont devenus très anti-libertaires, mais 20 ans après. Lui, il est capable de changer de positionnement en quelques mois. Ce n'est pas une girouette, c'est un ventilateur, hein, c'est à cette vitesse-là. Et je pourrais sortir aussi une anecdote amusante sur sa manière de fonctionner. C'est qu'un jour, on lui a posé une question sur Michel Clouscar, dont je suis quand même un spécialiste. Il ne l'avait jamais lu. Et du coup, il a sorti une espèce de pirouette, tu sais, paraphilosophique, pour en dire un peu de mal, un peu de bien. Et là, tu voyais bien que c'est un type qui est quand même... Il écrit de très nombreux livres avec beaucoup de pages. Et en fait, c'est un faux travail. D'ailleurs, c'est assez facile, parce que quand il avait dit « Avant d'écrire mon livre sur Freud, j'ai lu toute l'œuvre de Freud, toute sa correspondance et tout ce qui a été écrit sur lui. » Et tout ça s'est passé en moins d'un an. Je veux dire, à un moment donné, il prend vraiment les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire que son public n'est pas un public de lecteurs. Parce qu'en réalité, il faut une vingtaine d'années pour lire tout ce qui touche au freudisme. D'ailleurs, ce qui veut dire que si on veut penser en temps réel, on est obligé de donner son avis un peu avant d'avoir tout lu. De toute façon, on n'a pas besoin de tout lire pour sentir qu'il y a des structures, il y a des fondamentaux. Mais lui est capable de te sortir des énormités comme ça. Et sans doute parce que son intelligence, c'est qu'il est chez quelqu'un qui est là pour le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il ne va jamais chez un contradicteur, en réalité. Il va toujours chez quelqu'un qui est là pour le pousser et il sait à chaque fois pourquoi il est là et ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de voir effectivement pourquoi ces news, pourquoi les extraits qu'on a pris là où on les a pris. Et bien, à chaque fois, c'est « je vous passe un petit coup de pommade, bonjour, c'est la bonne adresse ». Quoi. En réalité, il y a un petit côté plus comique que chez BHL, je trouve. Il y a un côté plus drôle. Il a peut-être une petite pointe d'ironie et d'humour parce qu'on en avait parlé avec Xavier. Il fait parfois des sorties sur sa jeunesse qui nous montrent quand même qu'il est très initié en pensée subversive. Je ne sais pas si Xavier veut prolonger.
De toute façon, quand tu as été la caution Goy de BHL pendant 20 ans, que tu es arrivé à Paris depuis l'Orne, que tu es arrivé rue des Saints-Pères, que tu es monté chez Grasset, etc., enfin, tu sais parfaitement comment ça marche. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de doute, quoi. Lui, il sait parfaitement comment ça marche, il sait parfaitement ce qu'il faut dire, etc. Donc là, il a vu qu'il y avait une chaîne de télé qui était en train de se monter, dont l'actionnaire était à la fois catho-sioniste. Bon, bah lui, il était nietzschéen, je sais pas quoi, athéiste. Bon, bah maintenant, il est catho-sioniste, quoi. Puis si demain, il y a un mec qui monte une autre chaîne de télé où il faudrait être autre chose, bah il sera autre chose. C'est même assez fascinant, quoi. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est que le public oublie. C'est-à-dire que je dis, mais tu sais que Onfray était d'extrême-gauche. Ah bon, Onfray est d'extrême-gauche. Et puis pendant le Covid, regarde l'attitude pendant le Covid. C'est-à-dire qu'il joue la carte Raoul pour lancer. En plus, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'il joue la carte Raoul pour lancer sa revue. Et derrière, il trahit le truc en étant une des énormes cautions. Alors, cela dit, il n'a pas une énorme influence. Enfin, il a fondamentalement un public de boomers, quoi. Je veux dire, c'est les universités populaires de Caen.
De femmes, et de femmes.
Voilà, c'est des vieilles boumeuses. Oh, Michel Onfray, ça fait sérieux, il a des lunettes, quoi. Et deux, trois cheveux blancs. Enfin, c'est joli, quoi.
De bas bleu, tu disais, Félix.
Ouais, dans Enfer du donjon, ouais, j'ai écrit un truc contre Onfray, déjà.
Non, mais c'est des boumeuses de l'éducation nationale, à la retraite, qui écoutent France Culture. C'est symptomatique, parce que... Alors, je sais pas si son public le suit. J'aimerais bien... ça, ce serait un sondage à faire. Est-ce que ceux qui ont acheté le traité de la théologie sont toujours ceux qui le suivent aujourd'hui? Mais c'est même pas impossible, parce que le boomer qui lisait le traité de la théologie en 2005, depuis, il s'est fait casser la gueule par un maghrébin dans la rue, etc. Donc finalement, il a très bien pu le suivre aussi, quoi. Donc,
c'est marrant, c'est de lancer une revue qui s'appelle Front Populaire hier et d'attaquer Mélenchon aujourd'hui. Alors que vraiment, il y a quand même l'ombre de Léon Blum derrière Mélenchon. Front Populaire, il peut peut-être changer puis l'appeler Front National maintenant. Ça passerait pas mal, hein.
D'autres anecdotes sur Onfray comme faux rebelle toujours du côté du manche ou du côté du talon de fer?
Son livre sur Freud, par exemple, qui a eu un grand prestige, notamment à Égalité et Réconciliation, je parle des commentateurs. Michel, avec nous, j'ai lu plus d'une fois parce qu'il s'en prenait à la psychanalyse et à un Youpin, tu penses, enfin, à un type qui était... Or, la critique d'Onfray, elle est simple, il était phallocrate, homophobe, incestueux, pervers, fasciste, persécuteur de son peuple, les juifs, pseudo-savant, je l'ai recopié. Hein. Il déplore, je cite, « l'incroyable ardeur du juif Freud a tué Moïse, le père des Juifs. Donc la critique de la pseudo-critique, c'est pas une critique d'un philosophe, c'est une critique d'une gonzesse ultra-féministe et woke qui s'en prendrait à ce salopard de Freud. C'est uniquement ça, son livre. Il a aucun
pour
autre.
Pour ceux qui ont une petite culture de droite, son bouquin ne fait que ressortir ce que disent les gens de droite et d'extrême droite sur la
psychologie
freudienne. Moi, je me suis fait insulter à une époque quand j'avais fait quelques critiques devant un psychanalyste connu, et il m'avait tout de suite traité de nazi parce qu'effectivement, il y avait ce mépris pour cette, on dit, métapsychologie freudienne qui avait des tas de zones d'ambiguïté. Et ces zones d'ambiguïté que lève très brutalement et très vulgairement Freud, c'est celle de l'extrême droite, notamment sur l'argent. Pour que la cure fonctionne, il faut payer en liquide. Ça, c'est des plaisanteries de mecs d'extrême droite que j'ai entendues toute mon enfance. En fait, il a permis aux gens de gauche de découvrir les critiques drôles et souvent d'ailleurs assez justes que faisaient les mecs de droite sur la psychanalyse depuis les années 30. Hein. Et ça, lui, il le fait 50 ans après.
Critiquer la psychanalyse, c'est pas le boulot d'un philosophe. La psychanalyse peut être critiquée par tout le monde. Personnellement, moi, je suis pas du tout pour la psychanalyse, mais Freud, c'est un philosophe, et un grand philosophe, selon moi. Il est passé philosophiquement d'un matérialisme médical à une sorte de métapsychologie avec Thanatos et Eros. Bon, il y a matière pour un philosophe. Il n'y a pas un mot de ça dans Onfray. Il n'a pas un regard de philosophe sur Freud.
On sait que c'est l'extrême droite.
Freud développe la thérapie, c'est en gros, c'est son métier, mais la pensée de Freud, c'est une philo. Regarde Alain Soral dans ton ouvrage remarquable « Vers la féminisation », tu te sers du concept de l'Oedipe. C'est un concept qui est un concept, finalement, tu t'en sers d'une manière sociologique, mais c'est un concept philosophique. C'est pas un truc médical. D'ailleurs, il a beaucoup évolué, Freud. Donc, toute la critique de Onfray, c'est de dénaturer, de faire tomber. Elle a raison, Rudy Nosco, sur ce point. On dirait qu'il veut tuer un père, là. Franchement... qu'est-ce qu'il cherchait avec Freud si
le succès de librairie aussi, le succès de librairie, parce que quand tu
c'est un polar, c'est exactement
polar.
Ça. C'est
j'ai tué, qui a tué Freud ou j'ai tué Freud, tu peux faire Freud l'imposteur, tu vois. Moi qui suis considéré par Onfray comme un ignoble penseur d'extrême droite, quand j'écris sur la dissymétrie de l'Oedipe, je me sers de Freud, j'essaye de le prolonger, de le critiquer en l'approfondissant, à part d'un très grand respect, et puis surtout, comme tu l'as dit, la métapsychologie n'est pas une clinique en réalité, c'est un compartiment de la philosophie.
C'est une métaphysique presque.
D'ailleurs, ce que lui reproche la clinique, hein. C'est que c'est de la
d'ailleurs, Freud révérait Otto Weininger et Schopenhauer. Il s'en réclame. Et d'ailleurs, ce que lui reproche Onfray, hein, d'être trop misogyne et d'avoir aimé Otto Weininger.
Otto Weininger, dont Freud disait que c'était le garçon le plus intelligent de leur génération, puisqu'ils étaient amis de jeunesse à Vienne.
Ouais, hein. C'est exact. Je trouve que Onfray, en fait, il prend beaucoup d'arguments qu'il a puisés chez, comment ça s'appelle, Wilhelm Reich. Il y a beaucoup d'une critique reichienne. Il reproche à la psychanalyse son côté d'ignorer la sexualité féminine, par exemple. L'obsédé sexuel Onfray, parce qu'il dit que Freud est un petit performeur sexuel.
Ça marche aussi pour Freud, pas que pour Nietzsche, alors.
Oui, non, ça marche un peu pour tout le monde.
Là, j'aurais peut-être une anecdote pour confirmer par la pratique. Il se trouve qu'une fois de plus, j'ai eu une maîtresse en commun avec Onfray, il y a une dizaine d'années. Et sur l'oreiller, elle m'a dit, outre que c'était un dragueur qui promet une aventure qui va continuer et qui s'arrête au premier lit. Bon, ça, c'est typique du dragueur, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Mais que surtout, c'était effectivement, au niveau de la performance, un peu un sanglier aussi. Et qu'il avait un moteur à la pilule bleue, et que c'est en tout pour ça qu'à cette époque-là, il avait encore eu des gros problèmes de cœur. Donc c'est ce qu'on appelle un bourrin sous Viagra. Et ça dit des choses, effectivement, quand il bourrine sous Viagra, il doit sentir au-dessus de Nietzsche, hein, et au-dessus de Freud.
Encore une anecdote où on passe à l'extrait suivant. Alors, à l'extrait suivant.
Moi, je suis pour les identités nationales. Et j'ai beaucoup dit qu'Israël était formidable sur ce terrain-là et qu'on avait raison d'être souverainiste pour Israël, mais qu'il fallait l'être pour tous les autres pays. Il n'y a pas de raison qu'on soit souverainiste pour Israël, ce que je suis pour Israël, si je puis me permettre de parler pour Israël, mais je le suis aussi pour mon pays. Je le suis pour tous les autres pays. Je suis pour que l'Ukraine soit souveraine aussi. Je suis pour que le Tibet soit souverain. Je pense que la souveraineté, c'est la liberté des peuples et des nations à décider de leur propre destin. Donc je vois juste ce que fait l'Europe depuis des années, mais je me dis, il y a effectivement une destruction des nations au profit d'un empire. Il y a une espèce de jurisprudence François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Non, pas du tout, je comprends pas que Mitterrand... Enfin si, je comprends bien le cynisme du personnage, mais la guerre 14-18 ne s'est pas faite au nom des nations, elle s'est faite au nom des empires. C'est pas une question d'Alsace-Lorraine, la Première Guerre mondiale. Tous les empires se trouvent détruits après la Première Guerre mondiale. Quand l'empire allemand disparaît, on a un petit personnage, ce fameux Adolf Hitler, qui cristallise ce désir de reprendre la main après le traité de Versailles. Donc c'est pas non plus un problème de nationalisme, c'est toujours un problème d'impérialisme. Que voulait Hitler? Il voulait une Europe nazie, il voulait pas une Allemagne nazie, il voulait une Europe nazie.
Alors là, on a un joli fatras encore, avec beaucoup d'exemples de mélange de vrai et de faux, de demi-vrai, de mise en circulation de concepts qui sont pas critiqués, qui...
J'ai pris des notes sur la progression. Au départ, il dit Israël est souverainiste, donc ça soutient le souverainisme de tous les autres. Je suis remarqué que le souverainisme israélien a cette spécificité que c'est un nationalisme pour eux et un antinationalisme pour tous les autres. Tu peux demander à leurs voisins, le Liban, tu peux demander à tous ceux qui ont eu affaire à eux, et puis même tu peux demander aux nationalistes français comment ça s'est passé au départ, avant que cette alliance n'ait lieu aujourd'hui. Ce qui veut dire que d'ailleurs aujourd'hui, il est ce qu'on appelle national-sioniste. On a théorisé ça d'ailleurs avec mon camarade Youssef, et donc aujourd'hui, il est national-sioniste. Et après, il fait un petit glissement sur le danger, c'est l'Empire. Je fais remarquer qu'une fois de plus, il y a un contresens. Parce que l'Empire qui a du sens aujourd'hui, c'est celui dont je parle, comprendre l'Empire. C'est-à-dire cet impérialiste mondialiste, et qui effectivement... non seulement se bat contre les nations, mais de toute façon a supplanté tous les autres empires historiques dont il parle un petit peu, d'autant plus facilement que ça a disparu. Et puis là, après, il a son petit truc, qui est le seul truc qui fonctionne. Hitler était pour une Europe allemande plutôt qu'une nation allemande, ce qui n'est pas faux, mais avec un peu de dialectique, tu sais que si tu veux l'un, tu es obligé de passer par l'autre. Donc en fait, c'est vraiment une démonstration de non-pensée dont la spécificité, c'est qu'elle est à l'accélérer, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps. Tu vois, là, j'ai eu le temps de noter trois mots. Ça va tellement vite, il te prend de vitesse. C'est un virtuose du sophisme, non pas sur la profondeur, mais sur la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sprinteur. C'est un sophisme de sprinteur. Il faudrait inventer cette catégorie, tu vois. Et il va tellement vite que, tu vois, d'ailleurs, là, c'est ce qu'on a fait. Tu l'enregistres et après, tu passes au ralenti, tu décomposes et tu vois qu'il a enchaîné contradiction sur contradiction, mais à une vitesse vertigineuse. C'est pour ça, c'est-à-dire que l'idée du ventilateur vient assez vite. Tu sais, la girouette, c'est lent. Le ventilateur, ça va beaucoup plus vite et c'est un autre objet.
Youssef ?
Oui, une contradiction pour rebondir sur ce qu'a dit Alain. Dans cet entretien, donc, il parle de la nation israélienne qu'il soutient. Et puis, il dit un peu plus loin, oui, on a détruit l'Irak, on a détruit la Libye. Mais c'est qui on ? Parce que juste avant, il dit, je soutiens la nation israélienne. Mais c'est le lobby pro-israélien, ce sont les dirigeants israéliens qui ont poussé à la destruction de l'Irak, de la Libye, de la Syrie. Donc, quand Alain dit, la nation, le nationalisme israélien, c'est la négation des autres nations autour, c'est la réalité. Et pire encore, c'est-à-dire qu'Israël n'utilise même pas ses propres moyens pour détruire les autres nations, ils utilisent les moyens d'une autre nation. Donc, ce n'est pas un nationalisme comme les autres.
L'autre nation qui est un empire, en plus.
Oui, voilà, ou un hégémon, je préfère le terme d'hégémon. Donc, en fait, on a la puissance d'Israël ne réside pas en son sein, elle réside dans son réseau international, dans son lobby, qui instrumentalise les autres nations pour détruire d'autres nations. Donc, c'est une entité qui est parasitaire, pas seulement au plan régional, mais au plan international.
Et parasitaire en soi, puisque la Palestine, elle est parasitée. Le vrai pays national, c'est la Palestine. Et les Palestiniens, c'est des chiens. Mais ils nous ont dit que c'était des chiens le 7 octobre. Ils nous ont dit que c'est des animaux. Donc on n'est pas obligé de les prendre en considération.
Voilà, donc Félix me rappelle un truc, c'est qu'il lui, il est pour la nation israélienne, mais quid de la nation palestinienne?
C'est ça. Oh, ça n'existe pas.
Oui, mais, attends. La nation israélienne est créée par des gens qui viennent de l'extérieur, alors que les Palestiniens, eux, existent. Donc la Palestine existait avant Israël.
Bien sûr. C'est les fondamentaux de l'antisionisme qu'on pouvait dire ouvertement il y a encore une trentaine d'années. Et aujourd'hui, c'est criminalisé. C'est-à-dire la vérité, c'est...
C'est la singularité d'un nationalisme qui se fait contre les autochtones, contre le peuple historique. Et
d'ailleurs,
aussi...
c'est pour ça que c'est assez répugnant d'entendre toujours la réduction à d'Hitlérum et de comparer au nazisme. Je le rappelle que le suprémacisme nazi a duré 12 ans hein, et que... En réalité, il n'a pas beaucoup de profondeur historique et il n'avait pas eu d'avenir. Le suprémacisme qu'on trouve dans la Torah, excusez-moi, il est quand même persistant, même s'il n'a pas toujours eu des effets majeurs, depuis 2500 ans. Il y a quand même une inversion de causalité. En réalité, cette espèce d'arrogance de race des seigneurs est assez compréhensible, plutôt comme un judaïsme inversé. On ne peut pas renverser la proposition. Et d'ailleurs, il y a des discours d'Hitler où il le dit clairement. Il dit « le peuple élu, c'est nous ». Hein, les nazis se réclament pratiquement d'un contre-judaïsme. Et en ce moment, on nous présente toujours l'histoire, surtout face aux juifs qui ont une très longue histoire, on est obligé de le reconnaître, comme si en fait l'étalon méta-historique, c'était le nazisme. Le nazisme, c'est quoi? C'est une dérive de la poussée prussienne qui, à un moment donné, a son prurite de 12 ans entre 33 et 45, qui n'a même pas duré la durée du prurite napoléonien. Mais d'ailleurs, avec beaucoup de parallèles à faire. Hein, le bouquet final d'une nation qui grandit trop vite et trop fort. Et ça aussi, c'est insupportable. C'est qu'à un moment donné, je ne vois pas pourquoi on comparait ce que fait en ce moment l'armée israélienne à Gaza avec le nazisme. Je veux dire, je regarde, ce n'est pas du tout comparable. Et en termes d'échelle de valeur, je ne préfère pas aller plus loin parce qu'on est en train de criminaliser ce genre de critique objective. Mais il me semble que ce qui se passe en ce moment à Gaza va très au-delà, par exemple, de ce qu'on a appelé le martyr du ghetto de Varsovie. Hein. Déjà en quantité, ce qui est quand même aussi un critère assez objectif. Surtout quand on a l'homme comme standard, à un moment donné, tu compares le nombre d'hommes, quoi. Et ça, c'est une des grosses obscénités. Arrêtons de faire référence systématiquement pour tout ça à Hitler et au nazisme. On n'en a absolument pas besoin. Hein. On peut faire une analyse historique très, très sérieuse de ce qui se passe en ce moment sans avoir aucun besoin de se référer au nazisme. Hein. Sauf peut-être pour dire pourquoi on pouvait comprendre qu'à un moment donné, il y a un fort afflux de juifs d'Europe de l'Est en Israël après 1945. D'accord. Et ça s'arrête là. Sinon, tout le reste, c'est du rayon paralysant. Pour reprendre une phrase très honnête et très courageuse, prononcée par Mélenchon, qui a quelques qualités en ce moment.
En passant, Hitler, petit personnage, alors est-ce que Hitler est aussi petit performeur sexuel, d'après Michel Onfray? Est-ce qu'il voit toutes les choses par ce...
La légende dit bien que Hitler n'avait qu'un seul testicule, soi-disant qu'il l'aurait constaté sur son corps calciné, et que de toute façon, c'est un psychopathe, puisque en fait, c'est pareil, il y a la réduction psychologiste pour nous parler de l'époque qui est, tu sais, la politique de la haine, et qu'en fait, donc, c'est simplement une bouffée de psychopathie qui, de façon étrange, a contaminé toute l'Allemagne. Hein. C'est un virus psychologique. À un moment donné, les rapports de production, l'histoire, la défaite, tout ça sort, et on est en fait dans ce qu'on a appelé, notamment, je crois, beaucoup l'école de Francfort, le nihilisme. Hein. Et puis en ce moment, d'ailleurs, ce nihilisme est en train de se recycler ailleurs. Hein. En fait, de ce point de vue-là, il s'inscrit dans une tradition antiphilosophique, notre ami Onfray, c'est que tout ce qu'il dit en ce moment est pour nous empêcher de penser. Et là-dessus, on n'a pas besoin de lui, parce qu'on nous empêche de penser depuis 1946. Hein.
Oui, j'ai lu un livre, alors je vous prie de m'excuser, je deviens vieux et j'oublie les noms. J'ai lu un ouvrage d'un juif qui a été d'abord spartakiste et puis social-démocrate. Il écrit donc en 1933, 34, 35, donc il est témoin, il est juif, il est social-démocrate. Il a écrit que Hitler, c'était un génie politique, mais avec une certaine, comment dirais-je, une certaine étroitesse d'esprit. Voilà. Son expression, c'est qu'il était étroit d'esprit et génial, ce qui n'est pas incompatible, hein, vous le savez. Le génie, c'est pas des grands QI. Donc voilà un homme qui disait que pour faire ce qu'il avait fait politiquement, on pouvait avoir cette vision aussi. Il fut un temps. Parce que les histoires, que ce soit un fou, un maniaque, c'est...
Juste un autre point, pour revenir sur la malhonnêteté de son argumentation avec sa fausse opposition, la nation-empire, on se rend compte qu'on peut complètement retourner de ses arguments, puisqu'en fait, c'est un impérialisme, un véritable impérialisme qui a gagné en 18, dont l'impérialisme actuel, l'empire actuel, que vous avez analysé et expliqué, Alain, l'héritier est au pouvoir, en fait. Hein, et...
Si on veut regarder un peu ce qui s'est passé, bon, de toute façon, c'est depuis Waterloo, c'est qu'en fait, la France est chargée de se taper contre l'Allemagne pour que l'Allemagne ne devienne pas la puissance dominante qui commencerait à agacer l'Angleterre. Donc effectivement, ce qui est derrière toute cette série de conflits qui nous ont coûté très cher et à la France et à l'Allemagne, c'est l'impérialisme anglais, qui est l'impérialisme maritime et qui va donner après l'Empire américain. Si on regarde dans la séquence historique qui est encore valide aujourd'hui, l'empire dominant, c'est l'empire, on va dire, judéo-protestant, thalassocratique, anglo-américain, parce qu'il est toujours là. Et d'ailleurs, en ce moment, il est contesté pour la première fois, parce qu'il n'est pas contesté par des petits potentats comme Saddam Hussein, mais par un gros morceau qui est inavalable, qui est Poutine appuyé sur Xi Jinping. Mais donc là, c'est là qu'Onfray ne fait pas de géopolitique. Il s'en fout, je veux dire, il fait du slogan, du matraquage, effectivement, et la question, c'est que il faut vraiment qu'on soit dans une période d'effondrement intellectuel et d'effondrement moral de ce qu'on appelle les clercs pour qu'ils puissent exister. Ils se seraient fait rembarrer violemment dans les années 70 de manière totale et même encore jusqu'à la fin des années 80, il aurait beaucoup de mal à raconter ce qu'il raconte aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut tout se permettre. Moi, hier, j'ai regardé un documentaire sur Arte sur Trump. C'était des contre-vérités d'une grossièreté absolue pendant une heure et demie, alors que Arte, c'est pas l'émission d'Hanouna, c'est censé être du haut de gamme. Personnellement, moi, ça m'estomaque, parce que comme j'ai 65 ans, je me dis comment on a pu en arriver là, sachant qu'on est quand même les héritiers d'une élite intellectuelle mondiale, hein, qu'on est les rois du logos, etc. Et Onfray, la question, elle est là, c'est que s'il peut dire autant de conneries aujourd'hui, c'est qu'il est au milieu d'un champ de ruines, hein, avec en plus un flingue dans chaque main, l'air de rien. On en arrive à un point aujourd'hui où les nationalistes français peuvent marcher derrière Zemmour, tu vois, et où Onfray peut arriver sur un plateau en étant philosophe et nous débiter toutes ces conneries qui sont contradictoires à un tel niveau et à une telle vitesse que, en fait, ça produit un effet, excusez-moi d'un terme yiddish, c'est un effet de schutzpa, hein, un effet de sidération. Qui, hélas, par contre, effectivement, on peut dire qu'il a rejoint la communauté. Il est dans le spectacle de la sidération et la philosophie de la sidération. On pourrait le dire comme ça. Et de ce point de vue-là, il serait en cohérence.
Un petit point qui résume, à mes yeux, la malhonnêteté de sa géopolitique, c'est, pour citer un exemple de souverainisme et de nationalisme à soutenir, il cite le Tibet. Il faut quand même le faire.
Ah non, mais c'est un génie, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde, il y en a aussi pour Glucksmann, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il oublie rien, si tu veux, il connaît tout le truc. En fait, le vrai livre que devrait faire Onfray, c'est comment monter à Paris et durer sur les plateaux télévision. C'est le chef-d'œuvre qui devrait pondre conseil à la jeunesse, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment lire, comment ça marche, etc. C'est le livre qu'il devrait faire, parce que je pense qu'en plus, ce serait drôle, ce serait intéressant, ce serait un retour d'expérience. Pour le reste, c'est pas très intéressant, quoi.
Par contre, pour un traditionnaliste formé, comme on en connaît, en prenant parler de nationalisme tibétain, on peut parler de cause tibétaine. Mais de nationalisme tibétain, ça fait très très mal, quoi. Parce que... Mais il s'en fout. En fait, je pense qu'il allume, tu sais, on se dit, tiens, Tibet, ouais, il y a eu des manies parce qu'ils sont face aux méchants chinois, empire évidemment, et en fait il allume, tu sais, des petites lumières, on va dire, dans le cerveau du consommateur de, tu sais, de livres qu'on offre pour Noël. Les livres de Onfray ont beaucoup à voir avec les, tu sais, avec les Goncourt et ces trucs-là, tu sais, le gros bouquin de la saison. Et d'ailleurs, il en sort un par an, je crois qu'il a plus de 50 bouquins dans sa, en carrière, hein, comme on
d'ailleurs
dit.
Quand il parle des Tibétains, Bernard-Henri Lévy devant sa télé, même s'ils sont fâchés, ils doivent dire, putain, quand même, je l'ai bien formé.
Il met un pouce bleu. Allez, on va à l'extrait suivant, sur le Hamas nazi.
Et que, quand je suis allé, moi, dans des endroits qui étaient détenus par les Palestiniens, je voyais bien qu'il y avait une économie de guerre. Quand Adolf Hitler est au pouvoir en 1933, il mène une économie de guerre. Ça veut dire priorité à la construction des armements. Quand on construit des tanks, quand on construit des avions, quand on construit des munitions, quand on fabrique des obus, des bombes, des armes, etc., il y a un moment donné, il faut bien qu'on s'en serve de ces tanks, de ces avions, et effectivement, on se met à envahir un certain nombre de pays, la Pologne, etc., etc. Le Hamas mène une politique de guerre depuis des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois que de l'argent leur est donné en disant « pauvres petits peuples opprimés, exploités, voici beaucoup d'argent, voici beaucoup d'argent, voici beaucoup d'argent », qu'est-ce qu'il est fait de cet argent? Des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, des aéroports, des infrastructures? Non, pas du tout, des tunnels, des kilomètres de tunnels pour préparer la guerre. On envoie des tuyaux ou des tubes pour faire des canalisations, c'est-à-dire pour irriguer, c'est-à-dire pour cultiver, c'est-à-dire pour fabriquer un jardin là où il y a un désert. Que font ces tubes? Ça devient des lance-missiles ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais enfin, on les utilise pour envoyer des armes. Donc il y a un moment donné où il faut voir vraiment ce qui se passe en se disant arrêtons un petit peu quand on pense à un État palestinien, en disant mais il existe l'État palestinien, il s'appelle Gaza, et dans cet État palestinien il y a une économie de guerre, et le jour où il y a une économie de guerre, il faut bien que la guerre soit faite. Donc qu'on fasse véritablement une généalogie de ce conflit et qu'on arrête de faire bêtement de l'idéologie.
Que faire face à tant d'obscénités,
Alain?
Bah là, c'est pareil, c'est un festival fabuleux. Et t'as vu, il emploie le mot généalogie, c'est toujours, tu sais, le truc subliminal. Généalogie, Nietzsche, ça s'arrête là. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on lui, on dit, quand un type réarme, alors on pense à Hitler, des tanks, des avions, etc. Et d'un seul coup, on glisse le Hamas. Alors, on se dit des tanks et des avions, le Hamas. Ah non, c'est des tuyaux de gaz ou d'arrosage dont ils font des armes. Alors, les armes, ça serait des lance-roquettes faits avec des tuyaux, ça doit être super performant, on a pu le constater. Et puis surtout, comme c'est des futurs envahisseurs et qui veulent attaquer, ils construisent des tunnels. C'est sûr que quand tu construis des tunnels, c'est parce que c'est offensif, un tunnel, tu sais. C'est la conquête par le tunnel, tu vois, c'est bien connu. Et à la fin, c'est qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces Palestiniens? Ils ont un pays, Gaza. C'est comme si Hitler avait dit qu'est-ce qu'ils nous font chier, les Juifs? Ils ont un pays, le ghetto de Varsovie, tu vois. C'est l'Israël du Hamas, c'est Gaza. Et le mec, c'est pareil, c'est vertigineux, c'est presque de l'art. Et on pourrait penser que c'est un sketch, il faudrait mettre des rires. D'ailleurs, je pense que la bonne solution, c'est de mettre des rires automatiques à chaque fois qu'il sort un truc. Et puis sinon, avec un travail pédagogue, c'est tu établis les médiations, tu sais, tu mets flèche, 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 et tu vois après, c'est incohérence, absurdité, inversion totale, tu vois. Tu arrives de Hitler, tu sais, sur ces tanks ultra-modernes de l'époque, réarmant, tu sais, pour envahir la Pologne, et à la fin tu vois des pauvres mecs avec des tuyaux courant dans des tunnels, tu vois, et tu mets le signe égal, tu sais, égal, tu vois, et après tu mets Onfray, philosophe, et là pédagogiquement ça serait efficace, et là tu montres ça effectivement dans des séminaires pour gens qui aimeraient s'élever à la philosophie sans savoir ce que c'est, et tu vois, voilà la pensée d'Onfray, et tu vois ça, tu fais un PowerPoint là, et ça serait très pédagogique, tu vois.
Pour le coup, ça devrait être un séminaire de psychiatrie, parce qu'on se demande s'il n'est pas atteint d'Alzheimer, là, parce que... Hein.
Alors, ne gâchez pas toutes vos munitions, parce qu'on a encore un ou deux extraits sous le coude, hein, on en a encore sous le pied, hein. Il est allé plus loin encore. Alors, le suivant, donc, sur l'impérialisme musulman et un discours de la méthode Onfray.
Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu la biographie du prophète, il est écrit partout que l'islam est impérialiste. Donc, j'ai fait tout à l'heure la critique de l'impérialisme. Et il n'est pas question de faire dire à l'islam le contraire de ce qu'il dit. L'islam est impérialiste. Donc, l'Oumma, c'est la communauté, elle est planétaire. Et il s'agit de travailler à la dimitude, c'est-à-dire de faire de telle sorte que sur des territoires, des gens soient présentés comme tolérés en payant des impôts et pourvu qu'ils baissent la tête, parce que ça fait partie du jeu. Moi, je ne juge pas moralement, je dis juste c'est dans le texte. Je dis, moi, je m'appuie non pas sur des écrits de je ne sais pas qui, d'Éric Zemmour ou d'Alain Soral, je m'appuie sur le Coran, je m'appuie sur les hadiths du prophète, sur la Sirah. Je m'appuie sur l'histoire sur la biographie de Mahomet. Je vois ce qui est dit. Il est quand même écrit que le paradis est à l'ombre des épées. Le paradis est à l'ombre des épées. Donc ça veut dire effectivement que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce sont les épées et que derrière ce qui s'est passé, il y a le paradis. Là, indépendamment du fait de ce que je pense, de ce qui est advenu, et on le sait, je le condamne et je le critique. C'est l'idéologie de l'islam. C'est écrit, c'est dedans.
Youssef.
Oui, bah, alors déjà, je vais répondre sur le hadith pour comme ça c'est clair. Parce que, comme par hasard, je l'ai sous les yeux, le hadith en question.
Donc, en fait, c'est le paradis à l'ombre des épées, hein, c'est ça?
Oui, donc c'est un hadith qui est tronqué, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, en ce moment, j'ai affaire à des gens qui font ça, qui coupent et qui disent voilà, un tel pense comme ça. Voilà. Qu'est-ce que dit le hadith en question? D'abord, je vous donne la référence. C'est Sahih Muslim, chapitre djihad, numéro 3276. Il est dit, donc, lors d'une bataille, c'est le contexte, hein, il dit que les musulmans ne font pas de contexte, c'est le contexte. Qu'est-ce que dit le prophète? Il dit, « Ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez plutôt à Dieu la paix. Mais si vous le rencontrez, montrez de l'endurance et sachez que le paradis est à l'ombre des épées. » Puis il ajouta, « Ô mon Seigneur, toi qui as révélé le livre saint, qui a fait courir les nuages au ciel, qui a mis les coalisés, alors les coalisés, ce sont les Mécois qui ont voulu détruire, exterminer les musulmans, avec leurs alliés païens et certaines tribus juives qui ont rompu les pactes avec les musulmans et qui se sont alliés aux païens, aux polythéistes, pour éliminer les musulmans. » Donc il dit « Qui a mis les coalisés en déroute, met l'ennemi en déroute et apporte-nous la victoire sur eux. » Donc en fait, ce que dit le prophète, son discours, c'est pour galvaniser les troupes, et c'est de l'héroïsme, c'est-à-dire que ne cherchez pas le combat, mais si l'ennemi vient à vous, vous le combattez, ne fuyez pas. Je veux dire, un chevalier franc dirait la même chose.
Et oui, voilà. Il dit simplement ne pas se dérober au combat.
Oui.
Oui, puis moi, je veux bien prendre le point de vue du laïc d'ascendance catholique, tu sais. Moi, je veux bien croire que l'islam soit un impérialisme au sens essentialiste du terme. Ce que j'appelle dans mon dernier livre les systèmes mondes, il n'y en a pas eu 36. Il y a un impérialisme communiste, il y a un impérialisme du marché, il y a un impérialisme du Christ, d'ailleurs, et puis il y a un impérialisme musulman qui lui ressemble à la fois, qui ressemble à la fois à l'un et au judaïsme, qui est un impérialisme que je mettrais très à part. Pour ça, il faudrait lire mon dernier bouquin. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la chute de l'Empire ottoman, l'impérialisme musulman peut rester un impérialisme spirituel, c'est-à-dire le désir de conversion. Hein, c'est en ça que évidemment, le judaïsme peut toujours se protéger parce qu'en disant nous ne sommes pas une religion prosélyte, mais l'aristocratie d'Ancien Régime n'était pas prosélyte non plus. Contrairement, tu veux, à la pensée républicaine, elle n'était pas pour que tout le monde devienne aristocrate. De prétendre que c'est quelque chose de gentil de ne pas être prosélyte, c'est un discours d'abord de hiérarchique verticale et de domination. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la période actuelle, puisqu'il faut faire de la... Il remploie ces termes nietzschéens, c'est de la généalogie et de la contextualisation. Dans la période actuelle, notamment les 30 dernières années, nous avons un impérialisme américain notamment qui punit, châtie, recolonise et martyrise des nations qui sont des nations musulmanes. C'est d'ailleurs souvent d'ailleurs des nations musulmanes. La Syrie attaquée, avant l'Irak détruit. Et donc, quand on veut être précis aujourd'hui, on a plutôt des musulmans qui sont dans des nations relativement faibles et martyrisées par un impérialisme américain dont on peut dire qu'il est d'essence judéo-protestante. Et c'est là toujours où on ferait emploi toutes les méthodes sophistiques, un peu d'essentialisme, un peu d'ahistoricité. Et puis après, ben, ça vous donne le discours néocon, parce qu'en fait, tout ça, c'est le choc de civilisation. Et c'est le livre américain « Civilisation ou barbarie », tu sais, où il te dit que la civilisation est intrinsèquement blanche et démocratique, et le reste, c'est des barbares. Alors, il s'appuie toujours, tu sais, sur les films hollywoodiens, sur Ali Baba et les 40 voleurs, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau de la masse, il y a des gens qui cherchent des choses aussi simples que les résumés de matchs de football, ça fonctionne relativement. Mais le problème, c'est que lui, il est un philosophe, soi-disant, il est un moraliste, et il est un type qui produit une pensée critique. Alors que là, en réalité, à chaque fois, il est un militant, en réalité. Et il est un militant d'une aussi grande aujourd'hui brutalité et vulgarité qu'Éric Zemmour. Et peut-être même moins honnête que Golnadel. Parce que Golnadel, à la limite, est un sioniste honnête. Il dit, voilà, nous sommes des suprémacistes raciaux. Il glorifie la victoire sur le terrain. C'est-à-dire, nous avons raison parce que nous avons gagné. Hein. Et d'ailleurs, il va chercher ça chez les Spartiates, parce qu'il cherche du prestige, et il va le chercher ailleurs que dans le judaïsme, d'ailleurs. C'est assez marrant. De même qu'il a le nez refait et que sa femme n'est pas juive. On peut s'amuser un peu. Une fascination pour l'extrême droite, c'est toujours assez amusant comme personnage. Mais là, Onfray, il coche toutes les cases de la dégueulasserie. C'est ça qu'on peut conclure.
Pas d'autres remarques. Moi, j'aurais aimé un éclaircissement, Youssef. Et il parle donc des hadiths, il parle aussi de la Syrah. Est-ce qu'il n'abuserait pas un peu de la Syrah ou du Côte du Rhône ou choses comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de réel qui existe?
Non, mais quand il parle de la Syrah, c'est la biographie. C'est la biographie du prophète. C'est comme avec Freud. C'est-à-dire qu'il a écrit un
j'ai
livre.
J'ai tout lu. Il commence par j'ai tout lu. J'ai
voilà.
Tout lu.
Il dit, alors, son livre sur l'islam, je crois que c'est Pensée d'islam, il a lu tout le corpus islamique en 5 mois. Mais c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire qu'en 5 mois, genre moi, ça fait quand même depuis mon adolescence que j'étudie, je prétends même pas être un spécialiste de l'islam, vous voyez. Donc lui aussi manquant d'un arracheur dedans. Ah oui, j'aimerais ajouter autre chose, parce qu'il parle des... À un moment donné, il fait l'éloge des nations, parce qu'il dit oui, les pays musulmans n'ont pas toujours été islamisés ou islamistes. Puis il parle de Nasser, il parle de l'Irak, de Saddam Hussein. Et là encore, il dit oui, on les a détruits, etc. Je rappelle que, je l'ai dit dans un débat récent, aujourd'hui, les Israéliens nous disent que le Hamas, c'est les nazis, mais à l'époque, il disait la même chose de Nasser. Il disait que Nasser était un nazi et qu'il voulait produire un nouvel holocauste. Donc on ferait, s'il avait vécu à l'époque de Nasser, bah, il aurait dit la même chose que les Israéliens. Donc en fait, tout le monde est nazi. Je rappelle que Nasser s'est opposé à Israël dès qu'il arrivait au pouvoir, quasiment, à Israël et aux Britanniques. Donc il faut qu'il nous dise, il est pour Israël.
Et là, on est dans le nationalisme arabe qui combat assez fort et qui est combattu notamment par les frères musulmans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a cette branche qui avait déclaré nazi de Nasser jusqu'aux parties basses et quand même la branche nationaliste arabe qui est très éloignée des mouvements musulmans. Donc en fait, c'est-à-dire que le mec change de casquette systématiquement. Et moi, si je vais faire une remarque d'identitaire, parce que je vois bien les gens qui vont dire « Ouais, Youssef, il est bien gentil, mais quand même les Arabes, mais quand même les musulmans. » Moi, je vais dire un truc simple. Tout ce qu'on reproche de pire de l'islam vient en droite ligne du judaïsme. Hein ? On voit très bien ce qui, dans ce triangle, les points communs qu'il y a entre l'islam et le christianisme et les points communs qu'il y a entre l'islam et le judaïsme. Et en réalité, tout ce que les droitards, parce que c'est devenu un droitard, reproche à l'islam, pourquoi pas ? Mais ça vient en droite ligne du judaïsme. Donc à un moment donné, défendre le judaïsme au nom des critiques que tu fais de l'islam, et pour un type qui pense, et je veux dire qui pense en termes d'idéologie, même pas de religion. Moi, je suis un laïc, je vais dire c'est des systèmes de valeurs. Et à commencer par la lapidation, tu vas dire, ouais, c'est quand même les musulmans, ils en sont encore à lapider les femmes adultères. Question, d'où vient la lapidation en droite ligne ? Ça vient du judaïsme, je veux dire, voilà. Donc à un moment donné, tu peux pas défendre le judaïsme au nom d'une critique de l'islam. Ou alors, tu es plus cohérent, tu es païen, tu vois. Je veux dire, et tu dis, voilà, toutes ces religions abrahamiques nous ont mis dans la merde. C'est des religions du désert hystériques. Nous, on vient des forêts et des clairières. Tu rejoins les païens druidistes, etc. Et là, je trouve plus de cohérence. Et d'ailleurs, peut-être que Onfray va y venir. Peut-être que dans quelques temps, quand ça va mal tourner, il va redécouvrir, en fait, son origine profondément druidique, parce qu'il peut, hein, régionalement, il peut la jouer. Ça sera peut-être la prochaine mutation d'Onfray. Tu vois, c'est le Onfray druidique.
Youssef ?
Droit de réponse. En fait, quand Alain dit tout ce qu'on reproche au judaïsme, on le reproche aussi à l'islam.
Je dis tout ce qu'on reproche à l'islam, on peut le retrouver dans le judaïsme. Ça,
voilà.
Antériorité.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est attribué à l'islam. C'est-à-dire que même le Dieu dans l'islam n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Yahvé, c'est un Dieu anthropomorphe qui descend, qui remonte, qui change d'avis, etc. Alors que le Dieu dans le Coran est un Dieu transcendant. Et même par rapport à la guerre. Il y a un droit de la guerre en islam. Dans le Coran, il est dit, vous ne tuez pas les hommes à terre, non armés, les femmes, les enfants, les prélats, alors que dans la Bible hébraïque, c'est tu tues les hommes, les femmes, les enfants, les bœufs, et tu détruis tout.
Et tu te réserves les petites filles, c'est dans Voltaire. Il dit, tu tues tout le monde, mais tu gardes les filles.
Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'il y a quand même l'impureté radicale raciale que de toute façon, tu peux violer, mais tu n'enfantes pas, parce que sinon tu corromps le sang. C'est pour ça que c'est profondément obscène, parce que tu ne peux pas défendre le judaïsme en te servant de l'outil musulman. Si tu veux, l'abrahamisme d'une certaine manière, en disant, voilà, c'est pas ma sphère géographique, c'est un truc qui vient du lointain Orient, il faut qu'on redécouvre notre celtitude, tu vois, ça serait cohérent. Et je te dis, je l'attends un peu, quand ça va mal tourner, je le vois bien redécouvrir sa celtitude à l'autre, là. Mais aujourd'hui, toute l'extrême droite, parce qu'en fait, il est très proche de l'idéologie du RN, hein, c'est aujourd'hui des types qui, pour défendre le judaïsme, tirent à boulet rouge sur l'islam. C'est, d'un point de vue de l'incohérence, une obscénité totale. Hein.
Ou c'est l'inverse. Pour tirer à boulet rouge sur les Arabes, ils se cachent derrière Jewish Card. Mais alors, ce qui est intéressant, parce que j'écoutais ce que disait Alain sur les liens avec Zemmour, on revient toujours sur l'idée de la girouette. J'ai mis dans mes archives et je vois que fin octobre 2021, quand Zemmour est en pleine bourre, on a une interview, Michel Onfray, presque prêt à voter Zemmour. Ensuite arrive la polémique avec le grand rabbin de France qui décrète finalement que Éric Zemmour est antisémite à cause des déclarations sur Pétain. Et là, on a une déclaration de Michel Onfray, juste après, donc fin novembre, à la fin de la séquence. Je n'ai jamais dit que je n'exclurais pas de voter Zemmour, etc. Et là, il déclare dans Le Parisien, Éric Zemmour n'est pas gaulliste, comme si Onfray avait déjà été gaulliste, mais enfin, bon, ça ne mange pas de pain. Il est le FN des années 70. Et donc voilà, il faut vraiment suivre Onfray, quoi, parce que finalement, Onfray annonçait dans son positionnement la chute de la candidature Zemmour. Et vraiment, il est assez fascinant, mais peut-être dans 3 mois, il sera pro-palestinien, quoi. Il expliquera que Netanyahou était Adolf Hitler, enfin, sur le même, avec le même débit, les mêmes mots, etc. C'est fascinant.
Un dernier extrait, messieurs, pour enfoncer le clou.
Alors d'abord parce que c'est dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Je veux dire, quand vous avez une religion qui vous dit que c'est l'ADN de la religion et qu'il faut égorger les juifs et que ça vous conduit directement au paradis, c'est difficile de dire à des gens, laissez de côté dans votre Coran des choses comme l'antisémitisme, la misogynie, la phallocratie, l'homophobie, etc. Ils vont dire, comme c'est la parole de Dieu. Donc on n'enlève pas une virgule à Dieu. C'est dans le Coran. Donc c'est une prescription. Si vous voulez faire une historicisation du texte, vous pouvez dire oui, mais d'accord, on comprend qu'à l'époque où Mahomet est dans son esprit de conquête entre la Mecque et Médine, etc., qu'il y ait des tribus, que ce soit des tribus juives et qu'il faut effectivement les égorger à ce moment-là, c'est la guerre, bon voilà. C'est comme les invitations à la guerre contre les Cananéens dans la Torah, ça existe et c'est contextualisable. Le génie juif est dans la contextualisation. Le génie musulman est dans la répétition. On ne contextualise pas ce qu'on répète. C'est dans le texte, on ne cherche pas à savoir qui, quand, comment, pourquoi, de quelle manière, qui l'a écrit, ce que ça signifiait à l'époque, peut-être aujourd'hui ça ne veut plus dire exactement la même chose, ou ça doit être pensé autrement, etc. Non, c'est la parole de Dieu.
Bon, c'était éprouvant, mais c'était la dernière. Alain ?
Non, je vais laisser Youssef, parce que là, c'est du velours.
Alors bon, premièrement, il dit que partout dans le Coran, il est écrit qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens, d'ailleurs. Comme Zemmour, il n'y a pas un seul verset où il y a écrit cela. Pas un seul, il n'y a pas un verset où il y a écrit « vous tuerez les chrétiens » ou « vous tuerez les musulmans ». Il n'y en a pas. Bon, ça, c'est réglé. Sinon, il peut me le sortir avec les références, je l'attends. Deuxièmement, il dit « l'islam n'est pas une religion de contextualisation, il n'y a pas de contextualisation en islam et dans le judaïsme aussi ». C'est faux. C'est faux parce que le commentaire du Coran, ça commence très tôt, déjà à l'époque du prophète. Il y a Abbas qui a fait un commentaire du Coran, donc qui lui avait été un contemporain du prophète, puis les premiers grands commentaires commencent, Tabari, etc. Donc le commentaire du Coran et sa contextualisation, il y a des volumes comme ça, des milliers de pages, dès les premiers siècles. Après, il dit, il y a les guerres, les massacres dans l'histoire de l'islam. Bon, comme je l'ai dit, effectivement, il y a eu des guerres, mais c'était des guerres défensives dans un premier temps, dans la péninsule arabique, avec un droit de la guerre. Un droit de la guerre, on n'achève pas un homme à terre, etc. Et même quand un combattant cherche un lieu de sûreté, le Coran dit dans la sourate 9 qu'il faut lui accorder le lieu de sûreté, lui permettre d'entendre la parole de Dieu et le ramener à son lieu de sûreté. Ensuite, il dit donc, on ferait pas de contextualisation, que en fait, c'est gravé dans le marbre et ça s'applique jusqu'à la fin des temps. Non, dans l'islam, je viens de le dire. Mais il y a des tendances, effectivement, il y a des tendances en islam, d'ailleurs des tendances assez récentes, qui prennent certains versets hors dehors de leur contexte et qui disent qu'il faut les appliquer, quel que soit le contexte. Mais je citerai par exemple Maïmonide sur le massacre des Cananéens, parce que là, il parle des Cananéens, et il dit, dans le judaïsme, il y a une contextualisation. Oui, je veux bien sûr qu'il y a une contextualisation. Mais Maïmonide dit que le passage de la Bible hébraïque où il est écrit « tu tueras tous les Cananéens, les Amoréens, etc. », il dit « reste valable de tout temps, donc jusqu'à ce que les Juifs reconquièrent la Terre Sainte ». Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait l'épuration ethnique de 48 et qu'ils ont massacré des villageois, détruit des villages entiers, notamment celui de Deir Yassin qui a été un des plus connus, mais il y a eu 531 villages détruits en 1948, le massacre des hommes, des femmes et des enfants, ça, c'est de l'application à la lettre du livre de Josué.
Oui, Alain. Quand on comprend ce que veut dire ni pardon ni oubli, ça veut dire que pour eux, le temps ne passe pas. Or, la contextualisation implique le temps. Donc, dès lors qu'on est dans le ni pardon ni oubli, on est dans la permanence, notamment de la haine, de la vengeance, etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'on voit très bien que les déclarations des leaders israéliens aujourd'hui te disent qu'ils sont encore en train de se battre contre les Assyriens. Ils sont toujours en train de mener le même combat. Tu vois, ils te disent que l'Iran actuel, c'est l'Iran pré-islamique. Ce qui permet le pardon et l'oubli, c'est le temps. Le temps qui efface, le temps qui permet la réconciliation, etc. Et le temps est ce qui permet aussi la contextualisation. C'est avec le temps que tu peux contextualiser. Or, temps, il n'y a pas. Or, là encore, il y a une contradiction très forte, et c'est dommage qu'on ferait soit pas plus philosophe que ça. C'est qu'une religion dont un des vecteurs qui nous choque d'ailleurs énormément est le ni pardon ni oubli, ça veut dire pour nous, le temps n'existe pas. Nous sommes dans la permanence du combat et nous sommes dans la haine inextinguible. C'est ça que ça veut dire. Et donc, à un moment donné, tu as une contradiction flagrante. Des gens qui sont dans le ni pardon ni oubli s'interdisent de fait la contextualisation. Et d'ailleurs, on le voit très bien puisqu'ils s'en prennent aux Palestiniens comme si c'était des ennemis permanents. Et d'ailleurs, le côté psychiatrique qu'on peut trouver dans le judaïsme, qui est ce côté paranoïaque, c'est que pour eux, de tout temps, quoi qu'il arrive, tout le monde est toujours leurs ennemis et ils n'y sont jamais pour rien. Et ça, c'est l'incapacité même de contextualiser, tu vois. Donc, c'est dommage qu'Onfray ne fasse pas plus de philosophie, parce que tu vois, même moi, là, au déboté en 5 minutes, avec un diplôme d'instructeur de boxe, je suis capable d'en faire un peu plus.
C'est fascinant aussi cet extrait, parce qu'on voit comment, de glissements successifs, d'approximation en approximation, hein, il arrive à faire une inversion totale, à dire d'une des religions ce qui conviendrait parfaitement à l'autre.
Il enchaîne des médiations avec des liens causaux, et très rapidement, et il y en a toujours 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est-à-dire qu'entre le point 1 et le point 5, il t'a totalement perturbé.
Il est enfumé.
Par la vitesse, ouais, l'enfumage. Le principe même, des, tu sais, des camelots, c'est la vitesse d'élocution. Tu sais qu'il y a des concours de vitesse d'élocution des camelots. Et ils pourraient concourir, parce que le principe, c'est de te vendre, tu sais, 3 fois plus cher des casseroles de merde que leur prix dans la rue. Moi, j'ai toujours été fasciné par les camelots. Quand j'étais gamin, j'étais à Montparnasse, et il y avait le camelot qui avait gagné le championnat de France d'élocution. Tu sais, les mecs qui te disent je sais pas combien de centaines de mots à la minute de façon claire et nette. Et le mec, c'était sortir son baratin pour te vendre après une casserole qui valait 6 fois le prix d'une casserole correcte alors qu'elle était merdique. Et tout était basé sur la fascination de la vitesse d'élocution. Onfray, de ce point de vue-là, est un philosophe camelot, enfin un sophiste camelot. C'est-à-dire que son truc, c'est la vitesse. Il a compris ça, tu vois. Il a compris ça. Et de ce point de vue-là, il est assez moderne et assez innovant. Hein, d'habitude, quand tu veux faire doctor, tu parles lentement, tu dis très peu de choses, tu sais, c'est ce que j'appelais le phrasé giscardien qui est arrivé en politique par Giscard. Comme tu n'as pas grand-chose à dire, tu mets beaucoup de temps entre chaque mot et ça donne un sentiment de, tu sais, d'épaisseur, de profondeur. Il a un style à lui, tu vois, il a un style, c'est la vitesse et la manière dont il enchaîne les faux liens causaux. Et c'est vrai que c'est un style, c'est le style Onfray, et que ça a une certaine efficacité, je dirais, médiatique, journalistique. Mais c'est au détriment, malheureusement, de la philosophie.
D'autres choses, d'autres commentaires? Félix, Youssef, Xavier?
Je suis d'accord avec Soral, c'est magistral, parce que c'est exactement ça. Et comment ne pas penser encore à Nietzsche dans la première considération inactuelle, où il avait parlé de David Strauss, qu'il prend comme modèle du philistin. Il faudrait reprendre aussi ce concept de philistin, et il montre, bien que Strauss soit grandement supérieur à Onfray, cette baudruche gonflée à l'hélium médiatique, mais le fond demeure. Et c'est le fameux philistin cultivé dont parle Nietzsche, dont le type est courant, dont Onfray est le prototype. Et son fond, c'est la médiocrité. Mais surtout, d'après Nietzsche, c'est le style. Et c'est ce style qui trahit Strauss. Et là, comme tu viens de le dire, c'est le style du camelot, il dit, hein, il parle très vite. C'est l'imposture, mais intégrale, c'est vraiment un être...
Il y a l'effet de sidération qui, là, effectivement, nous rapproche d'une certaine tradition, mais qui n'est pas une tradition philosophique.
C'est vrai, mais avec toute la dégradation que notre époque implique aussi. Pour écouter un type pareil, il faut vraiment être un peu con, quand même, hein.
Ça reste un élève de Bernard-Henri Lévy. Et en même temps, je pense vraiment que Bernard-Henri Lévy doit se rappeler 1990, son frère arrivant rue des Saints-Pères, et le regarder maintenant sur CNews en disant...
En sabot, il est arrivé en sabot.
Voilà, c'est ça, depuis l'Orne.
La Picardie. D'ailleurs, si tu passes du BHL en accéléré, tu peux peut-être sentir du Onfray. Il faudrait tenter l'expérience.
En tout cas, la meilleure idée, c'est de passer des rires après les coxygrues et consorts. Ce serait, hein,
donc, avis aux monteurs, aux fabricants d'eux-mêmes.
Tu sais, qui te montre les cours de la bourse, tu sais, tu mets les mots concepts et puis des flèches, tu sais, avec flèche verte, flèche rouge ou flèche brisée pour voir que le lien causal n'y est pas. Et des fois, la flèche est à l'envers. Tu sais, rupture totale du sens. Tous les trucs, glissement, analogie foireuse, le tout pour la partie... Tu vois, la partie pour le tout, enfin, genre, tu peux tout mettre. Tu vois, un décryptage très simple, parce que c'est pas très... C'est rapide, mais c'est pas fin. Je veux dire,
Non, c'est pas fin. C'est... Tout ça, c'est justiciable d'une simple analyse rhétorique. Hein.
Ouais, mais il te laisse
pas
le temps.
Son compte avec ça. Hein.
De toute façon, l'opposant n'est jamais là. T'oublies pas qu'il ne fait pas de débat contradictoire. Il fait des monologues, justement, de... Alors, le côté monologue sur la montagne, tu vois, c'est Nietzsche en engadine. Tu vois, mais... Il a jamais de mec en face de lui. Il sait comment fonctionner. Il a un type qui lui sert la soupe. Il fait de la fausse érudition. J'ai lu le Coran, j'ai lu les Hadiths, j'ai tout lu. Alors, il avait lu tout Freud. Donc, il lit tout en 6 mois, lui, tu vois. Et puis derrière, il te sort ses énormités pour arriver là où il faut aller, c'est-à-dire là où il est payé pour aller. C'est comme un espèce de jeu. À la fin, tu as national-sionisme. Et le truc, c'est d'y aller le plus vite possible, tu sais. Puis là, tu as marqué le point. Et c'est pour ça qu'il faudrait, à un moment donné, dire quand est-ce qu'on ferait, oserait se mettre face à un spécialiste de Nietzsche, un spécialiste de l'islam. Enfin, tu vois, il faudrait lui proposer ça, tu sais, comme un truc de champion. Mais je pense qu'il le fera jamais, parce que là, il se fait étriller, massacrer.
Alors, je vous ai épargné la Russie est dangereuse, hein, le fait que les souverainistes sont complices anti-vax, complotistes, réduits à des individus qui ne sont pas crédibles. On a une pensée socialiste française très intéressante. C'était déjà assez copieux comme ça, je crois.
Ben, si tu veux nous mettre un dernier petit extrait pour la route.
Oui, pour rire.
Alors, chers auditeurs, nous allons repasser un extrait, et cette fois-ci, c'est à vous d'en faire la critique raisonnée. Vous avez entendu comment nous procédions. À vous de jouer.
Moi, je prends l'exemple d'Israël et de la Suisse depuis très longtemps, en disant, regardez, ces deux pays qui veulent être et durer, et qui sont dans le réel, ou dans la réalité, avec des principes.
Chers auditeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous de jouer dans les commentaires, et on se retrouve au prochain épisode.
Vous savez bien.